Bonsoir et bon début de semaine à tous. Paralysie du transport en commun à Kinshasa. Les transporteurs observent une grève depuis ce matin en réaction à ce qu'ils qualifient de tracasserie policière. Pour sa part, le gouvernement parle de certaines mesures, notamment le contrôle technique des véhicules pour assainir le secteur des transports à Kinshasa. Quelle analyse faire de cette situation? Quel mécanisme mettre en place pour assainir le secteur des transports en commun en RDC? Pour en parler, nous recevons comme invité Franklin Tshamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tshamala, bonsoir.
Bonsoir mon frère.
Henri Lissoumbou, premier conseiller de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, ville de Kinshasa, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il va également nous rejoindre, lui c'est Val Manga, expert en sécurité routière. Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Omar Burundi de Butembo Nord qui vous dit « C'est une bonne décision de la part du gouvernement congolais car c'est une façon de sécuriser la population kinoise et aussi assainir la capitale. » Cédric de Kamanga au Kassai Occidental, l'État devrait d'abord mettre en marche son entreprise de transport, puis interdire les bus dénommés Esprit de Mort. Cela n'est pas digne car maintenant c'est la population qui souffre pour se déplacer. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Grève des chauffeurs ce lundi à Kinshasa. Les principales avenues de la capitale étaient ce matin noires de piétons. Les transporteurs, presque tous privés, ont décidé de garer leurs véhicules et protestent ainsi contre ce que le président de l'association des chauffeurs du Congo ASECO appelle tracasserie policière. Reportage Michel Kifindangoy.
Les artères de la capitale sont envahies ce matin par des milliers de piétons. Dans une ville de près de 10 millions d'habitants, on peut imaginer les spectacles. De l'est à l'ouest de la ville, personne ne peut trouver un transport en commun. Sur certains artères, les conducteurs ont carrément barricadé les avenues en brûlant des pneus sur la voie publique. Dans d'autres coins comme Angili quartier 1, cette grève s'est transformée en des émeutes dans la matinée. Comme le malheur ne vient jamais seul, une forte pluie s'est abattue sur Kinshasa, mouillant ainsi des foules de populations qui parcourent des kilomètres à pied pour rejoindre leur poste de travail. Témoignage.
J'ai quitté la maison depuis 8 heures et quelques sous la pluie et il n'y a pas de transport. Donc j'ai dit bon, comme ça quand je descends à pied, depuis que je venais, je suis arrivé ici.
Signalons toutefois que cette situation est atténuée à certains endroits par un grand nombre de taxis moto qui d'ailleurs ont doublé le prix de la course.
Nous payons la moto 500 francs pour la distance entre Mongafoulerampoint-Gaba. Mais aujourd'hui, nous commençons à payer 5000 francs congolais de Mongafoula-Victoire. Nous voulons une solution.
Mais constat, plus l'heure avance, plus quelques véhicules apparaissent, transportant les passagers presque clandestinement, évitant ainsi le menace des autres grévistes.
Merci Michel Kifindangoy. Parlons maintenant des conséquences. Plusieurs conséquences ont été enregistrées à la suite de cette grève des transporteurs. La plupart des écoles de la ville de Kinshasa ont connu des difficultés pour fonctionner normalement ce lundi, alors que plusieurs écoles ont débuté les examens. Les supermarchés et plusieurs autres services n'ont pas été épargnés. Reportage Nadine Fulansimba.
Contrairement aux autres jours, l'ambiance était très morose ce lundi 21 mai dans les stations-service où nous sommes passés. Selon un pompiste trouvé sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala, les véhicules arrivaient à compte-gouttes. À la base, la grève des transporteurs des véhicules en commun. Témoignage.
21 paralysé ma classe, moi hein. Au sort de la rue, moi on a les noms, tout les autres côtés, on a arrêté morose, au sol. Le taxi mouquié, au transport exact. Ici au terrain, attends, on va trouver, il y en a un camion, un bango, un voiture, un bango, des bosses à vente,
un. Il n'y a pas que les stations-services qui étaient paralysées. La plupart des supermarchés situés à Kitambo Magasin ont enregistré une baisse dans leurs recettes journalières. Dans ces supermarchés que nous avons visités, généralement lundi matin, les responsables nous ont assuré qu'ils font de bonnes recettes. Mais aujourd'hui, les clients se sont fait rares. Monsieur Marc, un des responsables d'un supermarché, explique.
Généralement, le lundi, déjà dès le matin, il y a un engouement dans nos supermarchés. Mais le lundi d'aujourd'hui, nous avons constaté que, en tout cas, les clients venaient à compte-gouttes. Donc, ce problème des transports a eu une incidence par rapport à nos ventes.
Les secteurs informels étaient également touchés par cette grève. La plupart des vendeurs de boissons sucrées et pains qui ravitaillent le centre-ville n'ont pas pu atteindre leur site commercial en cette journée qui était en plus pluvieuse. Seuls quelques rares courageux ont fait les pieds de leur habitation jusqu'en ville. La même situation était aussi observée dans les différents marchés de la capitale.
Merci Nadine Foula Simba. Noter pour rappel que tous les véhicules ne remplissant pas les conditions de circulation routière à Kinshasa dans le collimateur de la police, l'opération visant à traquer ces véhicules a débuté mardi dernier. Le but est d'assainir le trafic sur les principales artères de la capitale afin de mieux sécuriser la population, a expliqué le commissaire général de la police. Par cette opération, la police envisage retirer de la circulation tous les véhicules en mauvais état. Un jour après le début de cette opération, on était déjà à plus de 200 véhicules saisis, comme le confirmait le général Charles Bissengimana au micro de Michel Kifindangoy.
Nous nous disons que nous devons retirer de la circulation les véhicules qui ne remplissent pas les conditions d'être mis en circulation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire les véhicules qui ne respectent pas les contrôles techniques. Donc, sur le plan technique, un véhicule qui n'est pas au point ne peut pas circuler. Ça, c'est un critère assez important, qui est un critère qui, une fois ne pas respecté, insécurise la population, insécurise même les conducteurs et insécurise également d'autres conducteurs aussi. Donc, c'est un critère assez important. Et tous les véhicules qui ont été saisis, doivent, avant qu'ils ne soient restitués, ils doivent impérativement passer au contrôle technique pour que le contrôle technique nous atteste que le véhicule est en état de circulation, peut être en état de circulation pour être sur la voie publique. Jusque ce matin, on était à plus de 205 véhicules qui étaient déjà saisis. Et nous pensons que d'ici ce soir, nous serons à plus de 300 véhicules.
Voilà, quand le général Bissengimana parle de jusque ce matin, c'est noté que c'était mercredi dernier. Alors, aussi signalé qu'il n'a pas été possible d'avoir dans cette émission un délégué du ministère des Transports. Henri Lissoumbou, je rappelle que vous êtes le premier conseiller de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, ville de Kinshasa. Le décor est ainsi planté. Le président de l'ASECO parle des tracasseries policières. De quoi s'agit-il exactement?
Merci beaucoup. Je viens de suivre avec beaucoup d'attention la déclaration de l'inspecteur général, que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que sur la voie publique, il y a des véhicules qui ne répondent pas aux critères. Mais il se fait malheureusement que on a mal choisi le moment parce que alors que la SONAS avait déclenché le contrôle de la police d'assurance, c'est en ce moment précis qu'on a choisi pour réprimer dans un premier temps le comportement des chauffeurs, surtout ceux conduisant les 207 qu'on appelle communément esprit de mort, en surnombre dans la ville de Kinshasa, et en confiant la dite mission à la police anti-émeute, les chauffeurs se sont vus infliger de fortes amendes, et même qui sont ces éléments sont allés au-delà de la mission leur confiée en tapant sur les chauffeurs. C'est un peu ça la goutte qui a fait déborder la vase ici dans la ville de Kinshasa.
Alors, vous dites que si on comprend bien, il s'agit plutôt des abus des policiers que vous dénoncez, non pas le contrôle technique en lui-même.
Non, le contrôle technique, nous sommes pour le contrôle technique parce que la vie des Kinois et Kinois dépend de l'état des véhicules que nous sommes en train de donner, d'affecter dans les transports rémunérés des personnes. Mais vous verrez que ici dans la ville de Kinshasa, nous n'avons dans la plus grande partie que des cercueils roulants. C'est tout à fait normal l'opération de contrôle technique et nous appuyons cette démarche et nous avons même demandé à nos membres de faire le pont entre l'État et les propriétaires des véhicules, des véhicules que nous utilisons parce que ces véhicules en mauvais état sont en train de causer autant d'accidents dans la ville de Kinshasa. La démarche est tout à fait fondée, mais les agents commis à cette tâche sont allés au-delà de ce que le général leur avait demandé de faire. Ils ont tapé sur le tophore, ils ont empoché des amendes. C'est un peu ça qui a fait que aujourd'hui nous en sommes là.
Alors, Henri Lissoumbou, il est reproché quand même aux chauffeurs des bus communément appelés esprit de mort ici à Kinshasa. Il leur est souvent reproché une certaine indiscipline, mais on a l'impression qu'au niveau de la SECO, vous n'êtes pas suffisamment organisé pour éduquer ses compatriotes.
Voilà pourquoi nous avons toujours sollicité auprès de l'autorité un appui, parce que vous savez que ce n'est pas la SECO qui est en train d'octroyer le permis de conduire à ces chauffeurs-là que on a appris à conduire dans le tas. Ce n'est pas nous qui avons donné à ces chauffeurs des permis de conduire. Et je pense que ces permis de conduire ont été vendus. Et ces chauffeurs-là ne l'ont pas mérité, parce que je pense que s'il faut remettre, octroyer un permis à un chauffeur, il faudrait nécessairement que la personne puisse passer dans une auto-école et éventuellement à la CONADEF. Nous avons demandé notre participation à la Commission nationale de délivrance de permis de conduire. On nous l'a refusé. Toutes les demandes que nous sommes en train de faire, on nous refuse ces demandes-là. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse s'en prendre à la SECO dès lors que nous avons demandé notre présence dans la commission pour voir dans quelle mesure on est en train de former ou d'octroyer ces permis de conduire à ces chauffeurs qui, après avoir été, reçu le permis de conduire, se retrouvent dans l'association avec tout le comportement qu'il a acquis dans la famille ou dans la rue. C'est un peu ça le problème.
Il y a quelques auditeurs qui réagissent à Henri Lissoumbou, Venant Wabelo de Matadioba Congo. Le temps des miracles est révolu, il ne faudrait plus attendre la main de Dieu pour assainir le secteur de transport. La seule toute petite volonté de la part des ministères qui agissent dans ce secteur en se dotant d'une bonne politique, respectant les lois de la République, suffit pour un début d'assainissement. Je pense ici au ministère de transport et surtout celui de l'intérieur, qui doivent aussi discipliner les policiers qui font la honte de la police sur les artères des villes de la République. Il y a également Eustache Nestafrique Sadiki de Bukavu Sud qui vous, c'est une bonne décision en faveur de la population de Kinshasa, mais pourquoi ne pas aussi l'étendre sur toute la RDC? L'État devrait aussi réhabiliter les routes. Philemon Kass de Kinshasa, les autorités doivent comprendre que la sécurité de la population est entre les mains de l'État. Je les félicite et souhaite qu'ils restent fermes à cette décision, car c'est au peuple de respecter la loi. En réalité, les taximens protestent contre les déviation de la police, pas à cette décision, ça vous l'avez également dit, mais j'ai noté tout à l'heure que vous avez souligné que le moment est mal choisi. D'après vous, à quel moment faudrait-il lancer cette opération?
Monsieur le journaliste, je pense que lorsqu'il y a une opération, il y avait l'opération de la SONAS, on pouvait bien attendre que la SONAS ait terminé le contrôle de documents de la police d'assurance, et après, ce n'est qu'après qu'on pourrait éventuellement lancer la police anti-émeute pour réprimer le comportement de l'homme chauffeur. Parce que vous savez que ça fait pratiquement plus de 3 décennies que ce chauffeur-là sont formés, mais avec des routes qui ne parlent pas. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de panneau de signalisation. C'est tout juste si aujourd'hui on a commencé à réhabiliter les routes. Si on réhabilite les routes, on doit nécessairement aussi investir sur l'homme chauffeur qui ne connaît rien sur le code de la route et qui, depuis des décennies, a conduit comme si les lois n'existaient pas dans ce pays. Nous avons été conviés à plusieurs reprises dans les réunions. Nous avons donné notre point de vue par rapport à la situation actuelle, mais il se fait malheureusement que nos voix n'ont pas été entendues. C'est un peu ça qui complique l'affaire. Il faudrait que la SECO, qui est un prolongement de l'État, que l'État investisse dans la SECO et l'État suive le fonctionnement de l'ASECO et l'État mette le moyen pour que nous puissions avoir, parce que maintenant c'est le secteur informel qui prime, il faudrait que l'État investisse dans l'ASECO pour que nous puissions recycler les chauffeurs, les éduquer et les former et après participer dans la livraison, dans la délivrance, dans l'opération de délivrance des permis de conduire. Sinon, on va nous taxer de tout alors que nous ne sommes pas impliqués dans ce qui est, concerne la formation des chauffeurs.
Merci Henri Lissoumbou. Franklin Tchamala, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous avez suivi le décor que nous avons planté avec différents reportages, ainsi que les conséquences qui ont découlé de cette grève des transporteurs. Comment vous analysez cette situation? Vous avez également suivi Henri Lissoumbou.
Merci beaucoup mon frère pour l'invitation et l'honneur qu'on me fait en me conviant sur les plateaux de votre émission ce soir. Je note que la révolution de la modernité nous impose de forger une citoyenneté responsable, et la citoyenneté responsable nous impose à son tour de savoir distinguer les rôles entre celui du privé, celui du pouvoir public et celui des autres partenaires hein, qui interviennent dans les différents domaines de la vie de notre pays. Ceci étant dit, je note également avec vous que les pouvoirs publics ont pris une série de mesures dans ce secteur devant consacrer le retour à la normalité. Nous sommes un État et si nous voulons que cet État survive comme tous les États du monde, nous devons savoir qu'il y a que la norme qui garantit la survie des États, donc la loi. Ce secteur, c'est un secteur réglementé. C'est un secteur réglementé par le code de la route, il est réglementé par d'autres textes législatifs et réglementaires, notamment qui touchent au domaine d'assurance, et donc il est important pour chacun des intervenants, notamment, surtout les usagers d'engins automoteurs, de savoir jouer leur part des partitions. Il n'est pas ici question de trouver des excuses en disant, non, ça fait longtemps que nous sommes hors normes, il aurait fallu vraiment... d'abord attendre et tout avant de nous ramener à la norme. Donc je pense que le moment était venu de sécuriser notre peuple en permettant au pouvoir public de jouer la partition qui est sienne, celle de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, en faisant en sorte que seule la norme puisse prévaloir. Et ici donc, nous n'avons plus d'excuses, la norme doit prévaloir. Et la révolution de la modernité, donc la modernité nous impose en ce moment de nous départir de notre vieil homme. Tout ce qui est vieilli doit se départir de nous pour faire en sorte que, le renouveau prévale. Le renouveau laisse la place à l'explosion du progrès technique et nous devons faire avec. Et donc voilà mon propos à ce niveau de débat. J'ai entendu les propos des divers intervenants que je félicite. J'ai entendu les propos du conseiller, du syndicat de chauffeurs du Congo. Je l'en félicite également, il fait son travail. Mais on doit savoir que le pouvoir public a un rôle à jouer et on doit le laisser jouer son rôle. C'est ça les partenariats.
Alors, Franklin Tchamala, vous parlez de la révolution de la modernité qui implique le retour à la normalité. Il y a l'honorable Paulin Odiane de Kisangani en province orientale qui dit « Le gouvernement congolais subit toujours les événements. Comment peut-on parler de la révolution de la modernité dans un pays où le gouvernement ne dispose d'aucune société de transport, pas d'avion, pas de société de transport en commun ? Bref, rien. Alors, où sont passés les bus Scuc, City Train ? En son temps, les autorités avaient tellement fait des bruits autour de ces bus qui sont aujourd'hui invisibles. Comment vous y répondez?
Je pense qu'il y a toujours un début à chaque chose. Il y a un début à chaque chose. C'est vrai, notre comportement collectif nous a presque amené au point où nous sommes, au point du non-État, où nous nous trouvions déjà, au point de la banqueroute de l'État, où nous nous trouvions déjà. Et maintenant, nous devons faire le choix. Le choix qu'il convient de faire est celui soit de nous laisser aller et de nous enfoncer dans le trou noir où le pays était en train d'être drainé par notre inconscience collective, ou alors de reprendre sa conscience et de dire le moment est venu de nous sortir du trou. C'est ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment. On nous dit, mais comment peut-on parler de la révolution de la modernité dans un pays où l'État ne dispose d'aucune société de transport? Oui, l'État ne dispose pas de société de transport, bien que l'État ait disposé de ces sociétés par le passé. Mais l'État dispose en ce moment de ce qui vaut plus qu'une société. Donc la loi, parce que l'État n'est pas le seul intervenant dans ce secteur. L'État, dans le contexte d'une économie sociale de marché, intervient aux côtés des privés pour réguler d'abord le secteur, mais également il peut intervenir pour suppléer à l'activité du privé lorsqu'il s'aperçoit que l'activité du privé est déficiente. Et donc, nous sommes dans le contexte d'une économie sociale de marché, donc il faut permettre à l'État de jouer ces deux facettes-là, sur ces deux facettes-là. Il régule, il peut suppléer à l'activité privée, dans le cas d'espèce. L'État est en train de planifier un certain nombre de choses, et donc il faut laisser au gouvernement les soins de le faire. Mais surtout, ne pas nous opposer au retour à la modernité. Je sais que le retour à la normalité, je sais que le retour à la normalité ne se fera pas sans douleur pour des gens qui ont été habitués à évoluer en dehors de la norme, avec des surcharges, rouler à tombeau ouvert, par moments rouler sans document de bord, rouler, changer de bande comme l'on veut. Je dis pour des gens qui ont été habitués à fonctionner comme ça, revenir à la normalité ne se fera pas sans douleur, on le comprend bien. Mais ne disons pas que l'État a tort de nous pousser ou de nous contraindre à revenir à la normalité. C'est important. Et la modernité passe par la norme. Habituons-nous à fonctionner comme des États normaux. Les États normaux sont ceux qui ne discutent pas avec la loi.
Franklin Tchamala, Henri Lissoumbo a tout à l'heure dit que le moment a été mal choisi, parce qu'il faut dire que déjà le matin, il y a dans certains quartiers ici à Kinshasa, c'était des jets de pierres, on brûlait déjà certains pneus dans certains endroits, on imaginerait peut-être que n'eût été la pluie de ce matin, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Le moment n'est-il pas, comme a dit Henri Lissoumbo, réellement mal choisi sur le plan sociopolitique?
Je ne pense pas que les moments soient mal choisis, parce qu'il n'y a pas un moment pour respecter la loi, un moment pour voguer en dehors de la loi. Non, le moment n'est pas mal choisi. J'ai entendu dire que puisque le contrôle, des documents d'assurance était en cours, il fallait bien attendre que ce contrôle échoue pour réouvrir une autre opération. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Chaque usager d'engin automoteur, dans un état normal, est supposé, avant d'avoir mis son engin automoteur en circulation, il est supposé détenir notamment dans les paquets des documents de bord une police d'assurance de responsabilité civile en matière d'usage d'engin automoteur. C'est ce qui est normal. Ça, c'est même pas une chose qui devait appeler un contrôle. Vous savez, et alors maintenant, si dans notre pays, pour détenir ces documents, nous devons attendre la contrainte, nous sommes donc des citoyens anormaux. Revenons à la norme. Et donc, si nous devons revenir à la norme, y compris par la contrainte, il est temps que la contrainte prévale, parce que de plus en plus, je ne peux pas comprendre que du fait que l'État nous dit revenons à la norme puisse appeler de notre part des comportements d'animosité.
Merci.
Je ne peux pas comprendre. J'ai entendu les conseillers dire, bon, le moment est mal choisi, mais j'ai dit, le moment est mal choisi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un moment pour appliquer la loi et un moment pour observer, pour être à marche de la loi? Je
Merci.
Ne pense pas.
Merci Franklin Tchamala, on vous garde encore tout au long de cette émission. Val Manga, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir Radio Capi, et bonsoir à notre invité qui est sur le plateau, et ainsi qu'à tous ceux qui sont vraiment branché pour la sécurité routière dans notre pays.
Voilà, vous êtes expert en sécurité routière, vous avez suivi Franklin Tchamala, pour qui la révolution de la modernité implique le retour à la normalité, et Henri Lissoumbo, qui parle des tracasseries policières par rapport à cette grève. Quelle est votre analyse?
Premièrement, la paralysie que nous avons constatée ce lundi 21 mai 2012, c'est un message fort lancé à l'endroit du gouvernement de notre pays. Deuxièmement, cette paralysie traduit le mécontentement des conducteurs des transports en commun face à l'inorganisation de ces secteurs. Troisièmement, cette paralysie prouve à suffisance que le transport en commun dans notre capitale, pour ne pas parler d'une façon particulière, mais en général dans notre pays, est entièrement contrôlé par les privés. Bien sûr, l'État congolais donc n'a aucune entreprise fiable qui peut faire face au système de PPP, donc de partenariat public-privé. Notre analyse va très loin. C'est une affaire qui est pratiquement récurrente. Voyez, une grande capitale de 10 millions d'habitants, nous n'avons aucune entreprise de l'État qui peut faire face aux déplacements en tout cas quasi totale, de tous les Congolais qui se déplacent de la cité vers le centre-ville et le soir du centre-ville vers la cité. Une autre analyse est que la normalité, c'est bien. Parce que sans normes, vous ne pouvez pas arriver à moderniser quelque chose. Ça, je félicite Franklin Tchamala et je suis d'avis aussi que le secteur de transport, tenez-vous bien, en ma qualité d'expert en sécurité routière, j'ai presque 30 ans dans le secteur de transport. Mais je dois vous dire ceci, je pleure parce que la législation de notre pays en matière de transport routier, parce que c'est 70% de transport est assuré par la voie terrestre et particulièrement par la route. Mais cette législation date de 1957, donc désuète en ce moment ici, et qui date du roi Léopold II. Donc nous devons commencer d'abord, comme l'a dit M. Franklin, commencer à édicter des normes modernes pour que notre transport puisse devenir aussi moderne. Ça, c'est du point de vue analyse. Et nous devons également savoir que l'OCC a un rôle vraiment prépondérant à jouer quand en ce qui concerne l'entrée des marques de véhicules qui doivent transporter notre peuple. Si vous devez bien vous rafraîchir la mémoire, le secteur de transport en commun dans notre pays ne commence pas aujourd'hui. Nous devons citer par exemple des sociétés qui ont vécu et qui ont disparu. OTCC, Transam, Sotraz, aujourd'hui Citytrain pratiquement est stuck en faillite. Mais quel est le type de véhicule qui s'adapte à notre climat, qui s'adapte à notre pays? Nous n'allons pas importer des véhicules à l'entrée donc au port de Matadi ou encore à Sumbalesa ou tout ça, des véhicules hermétiquement par exemple fermés, des autobus. Nous devons également, grâce aux statistiques, aujourd'hui nous sommes pratiquement plus de 60 millions. Et c'est sur base des statistiques qu'on pourra alors déterminer quel est le charroi automobile que nous devons mettre à la disposition de la population. Pour ne pas monopoliser mes analyses, je vais chuter en disant ceci. Au niveau de l'organisation de services de transport administratif, pratiquement ces services n'existent plus.
Valmanga.
Oui.
Alors, permettez juste que je puisse vous demander quelques précisions, mais avant ça, il y a quelques auditeurs qui nous ont écrit. Malonga Koubali de Bandundouville. Le transport dans notre pays restera toujours un mystère. Par exemple, ici chez nous à Bandundouville, quand est-ce que l'État congolais songera à nous libérer du phénomène Toleka qui nous cause aussi chaque fois des accidents graves? Teddy Tendilongue de Bukavu Sud Kivu, si ces tracasseries se portent bien dans la capitale qui est le siège des institutions, qui alors viendra en rescousse dans les coins et recoins du pays où ces tracasseries font que les gens aient peur d'acheter des voitures? Tout à l'heure, vous avez dit que ce mouvement de grève était un message fort lancé à l'endroit du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Effectivement, je pense que la réponse est donnée par ces auditeurs. C'est-à-dire, nous ne devons pas organiser le transport seulement dans la ville capitale, mais c'est sur toute l'étendue de notre pays. Donc, le transport en commun dans nos villes, et pourquoi pas les transports interurbains entre les villes, et pourquoi pas le transport des rases campagnes. Vous voyez, ils parlent même de Toleka, mais c'est un transport pratiquement archaïque. Et donc, le ministre des Transports, j'ai bien dit le ministre des Transports, doit se doter, en ce moment ici où nous parlons de la modernité, de la révolution de la modernité, il doit se doter d'experts aguerris pour que nous puissions changer, comme l'a dit Franklin Tchamala, en tout cas, les vieilles habitudes aux habitudes nouvelles. Et ici, je voudrais aussi épingler dans mes analyses le nouveau code de la route, qui est la loi 78/022. Du 30 août 78, portant nouveau code de la route, est pratiquement dépassé. Donc, il faudrait que le Parlement de notre pays se penche très rapidement pour sécuriser, en tout cas les usagers de la route sur la voie publique de notre pays.
Merci Valmanga. Henri Lissumbo, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, Valmanga a évoqué dans son analyse le deuxième point. Il parle de l'inorganisation du secteur des transports. Même au niveau de l'ACECO, on sent que l'organisation de ce secteur semble vous échapper.
Le journaliste, vous avez compris que vous aviez en face de vous un spécialiste en la matière. C'est un monsieur qui a fait son temps à la CNPR, et je ne sais pas pourquoi il est parti de la CNPR, parce que avec lui les choses allaient de mieux en mieux. On a même voulu recycler, on a même élaboré un programme avec lui pour recycler les chauffeurs. Mais malheureusement, les gens qui pensent bien faire dans ce pays, on les met toujours de côté. Il faudrait revoir ce que M. Val est en train de vous dire, parce que c'est un grand monsieur dans ce pays qui doit nécessairement faire partie de la Commission nationale de prévention routière pour recycler les chauffeurs. Et en ce qui concerne le problème de la grève, j'ai suivi les politiciens, ce sont des politiciens, ils ne sont pas avec nous, ils ne comprennent pas le langage des chauffeurs. Juste là, c'est pratiquement le secteur informel qui tient le coup. Il faudrait pas qu'on minimise l'apport des chauffeurs dans la vie au quotidien des Quinoises et Quinois. S'il y a des problèmes, nous sommes en train de soumettre ça à l'autorité. Nous avons fait des réunions et des réunions, nous avons même présenté un cahier des charges, mais il n'y a personne qui suit cela. C'est vrai qu'au sein de l'ACECO, il y a un problème d'organisation, mais il faudrait que l'État jette un regard sur le fonctionnement de cette structure, parce que jusque-là, c'est le secteur privé qui prime. Merci. On ne peut pas abandonner ce secteur-là entre les mains des personnes sans pour autant suivre le fonctionnement de cette structure. Merci. Il faudrait vraiment qu'on puisse suivre cela. C'est un peu ça, en définitive, ce que j'aurais à dire en ce sens.
Merci Henri Lissumbu. Deuxième partie de cette émission, quel mécanisme mettre en place pour assainir le secteur des transports en commun en RDC? Vous le savez, depuis près d'une semaine, la police arrête le bus communément appelé 207 et 208 ou Esprit de mort. Plus de 200 bus sont immobilisés à ce jour par la police. La mesure du gouvernement intervient au moment où les sociétés de l'État dans ce domaine, Cititrain, Stuc, sont en quasi-faillite. Elles n'ont pas un charroi automobile suffisant. Selon les experts en transport, il faut au moins 2000 bus de l'État pour assurer convenablement la circulation des Quinois. Éclairage sur l'une de ces sociétés, Cititrain, avec vous, Innocent Olinga.
En entrant dans la concession de Cititrain située à Limété, c'est un parc de bus sans pneus posés sur des jantes que l'on aperçoit. L'impression est que ce sont des épaves, mais à Cititrain, on dit que leurs moteurs sont en parfait état. Ils se posent seulement les problèmes d'accessoires et de pneus. Il y a 4 ans, Cititrain avait réceptionné 115 bus pimpant neufs, mais à ce jour, 20 seulement sont opérationnels. Y a-t-il un problème de mauvaise gestion? Non et non, soutient-on à Cititrain. L'entreprise ne bénéficie pas du tout des subsides de l'État. Or, dans les temps passés, elle en avait $1 million chaque trimestre. Une autre raison d'étranglement de l'entreprise, c'est le manque à gagner de $15 000 réalisés chaque mois, soit $300 000 l'année, dû au prix de transport de 500 francs congolais imposés à l'entreprise par l'État, au lieu de 736 francs congolais estimés par celle-ci. Toutefois, à Cititrain, on constate la bonne volonté du gouvernement de soutenir l'entreprise. Au premier trimestre de cette année, il lui a versé en francs congolais l'équivalent de $27 000. Si l'élan reste le même, l'entreprise aura annuellement $100 000, ce qui ne comble pas toujours son manque à gagner de $300 000 réalisés par année.
Merci Innocent Olinga. Voilà, nous venons de l'apprendre que le gouvernement vient d'annoncer par le biais du ministre des Transports, quelques mesures au sujet de cette grève. Premièrement, le maintien du contrôle technique. Deuxièmement, le gouvernement va larguer de façon urgente les Stuc et Cititrain. Et troisième mesure, le train urbain va fonctionner, va faire des rotations 5 fois par jour. Vous aurez des précisions dans nos éditions d'information. Franklin Tchamala, communicateur de la majorité présidentielle, vous venez de suivre les mesures annoncées par les gouvernements, mais que faut-il de façon durable pour assainir le secteur de transport en commun en RDC?
Je pense qu'il faut simplement élaborer une politique efficiente, qui tienne compte de toutes les contraintes. L'État a sa partition à jouer dans l'exploitation du secteur de transport en commun. Les privés ont leur partition à jouer. Et donc, chacun doit s'en tenir à sa partition si nous voulons vraiment que notre État, en fait, l'action congolaise fonctionne au diapason des autres États du monde. Oui, tout à l'heure, je viens de suivre le reportage qu'il fait sur Cititrain, sur sa situation, notamment sa situation financière, qui est due au fait que jusqu'ici, elle a pratiqué des prix qui étaient en deçà et des coûts ou des charges qu'elle supporte, sans pour autant être bénéficiaire aussi d'une subvention destinée à équilibrer ses comptes d'exploitation. Et donc, lorsqu'on parle de la politique harmonieuse qui doit en fait être conçue dans cette matière, dans ce domaine, c'est une politique qui tienne compte effectivement des comptes, des gestions, et une politique qui prend en compte notamment la donne des subventions d'équilibre, puisque les prix sont jusqu'ici dirigés dans ce secteur pour des raisons évidentes. On ne peut pas laisser un secteur comme celui-ci qui est social, un secteur comme celui-ci, on ne le laisse pas s'ouvrir un libéralisme très sauvage, tant il est vrai que beaucoup des facteurs peuvent conduire à l'emballement des prix. Donc, changeons, si nous voulons changer le Congo, nous devons changer nos cœurs. Changeons les cœurs, changeons notre état d'esprit, changeons nos visions si nous voulons changer le Congo. Et donc, seule une politique efficiente, bien conçue avec le concours de tous les partenaires, peut nous permettre d'exploiter ces secteurs dans l'intérêt bien compris de tous les partenaires.
Alors, Franklin Tshamala, juste une très brève réponse de votre part. À suivre les mesures annoncées par le gouvernement, il n'a pas fléchi à la pression. Ne va-t-on pas assister à un bras de fer ? Très brièvement, je vous en prie.
Non, je pense que le gouvernement s'assume. Le gouvernement s'assume parce que ce qui est en jeu, c'est la sécurité des personnes. Et la sécurité des personnes n'a pas de prix. Vous savez, le gouvernement a la mission, notamment celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et dans ce secteur, il était venu le moment, effectivement, de n'avoir pour mesure uniquement la loi, la norme. Et le fait que le gouvernement n'est pas transigeant dans ce secteur, en fait, par rapport à la loi, c'est une bonne chose. Merci. Et donc, j'ai appris par ailleurs qu'on avait supprimé, en fait, on a suspendu momentanément le contrôle du port des documents d'assurance. Je pense que serait une erreur très grave que de le faire. Il faut effectivement continuer ce contrôle parce que ce contrôle forge dans les Congolais la culture d'assurance et nous en avons besoin si nous voulons effectivement rentrer dans la modernité à l'insert d'autres États.
Merci Franklin Tshamala. Val Manga, vous êtes expert en sécurité routière. Il y a Maître Jean-Paul Lumbulumbu de Goma en Nord-Kivu qui dit dans une ville surpeuplée de plus de 8 millions d'habitants, sans une société étatique de transport en commun opérationnel et où les privés suppléent au déficit de l'État pour faciliter le transport en commun, le gouvernement devrait plutôt être tacticien et diplomate pour prendre des mesures qui s'imposent dans un secteur où il n'est pas effectif. Mais là, vous venez de suivre les mesures prises par les gouvernements. Val Manga, est-ce que vous pensez que ça peut améliorer la situation?
Effectivement, je crois que le gouvernement reste le gouvernement, l'État reste l'État, et c'est l'État qui organise pratiquement la vie nationale. Et ici, particulièrement, c'est la vie ou la politique même de transport. En fait, ce sont des mesures qui peuvent peut-être alléger pendant une petite période, mais il faudrait aller en profondeur. Et ces mesures, je voudrais bien rappeler aux auditeurs que il y avait un chronogramme en ce qui concerne le contrôle. Et puis, le contrôle dans le système de transport dans notre pays est réglementé. Ne descend pas sur la voie publique pour contrôler n'importe comment ou un contrôle de routine. Ça n'existe nulle part dans le code de la route. Mais il y a un service qui demande. Et avec sensibilisation au préalable, on dit aux usagers que de telle date à telle date, il y aura contrôle de tel ou tel autre document. Donc, un véhicule, quand ça se met sur la voie publique, il y a d'abord le permis de conduire pour l'homme. Deuxièmement, il y a la carte rose qui détermine les plaques d'immatriculation ou encore qui détermine même l'identité du véhicule. Il y a également la carte d'assurance. Il y a, en fin de compte, si c'est un véhicule commis au transport en commun de marchandises ou de personnes rémunérées, eh bien, doit avoir l'autorisation du ministère des Transports et Voies de Communication, ce que nous appelons, nous, disons, l'autorisation des transports. Et enfin, comme l'a dit M. Franklin, il y a le contrôle technique des véhicules pour savoir si ces véhicules sont en bon état de marche pour transporter les concitoyens ou encore transporter la marchandise. En fait, les mesures, c'est bien, mais il faudrait maintenant, en ce moment ici, comme l'a dit M. Franklin, il faudrait qu'il y ait un dialogue social. Et c'est là où j'en appelle au ministre des Transports, illico presto, de pouvoir convoquer les États généraux avant que nous puissions alors arriver à cette modernité. Parce que vraiment, tout est désuet dans le ministère des Transports.
Merci.
Et ici, je voudrais terminer ou chuter par là. Je demande donc à tous les conducteurs vraiment de fléchir un peu, parce que le pays est en train d'aller petit à petit vers la modernité. Et ils doivent savoir que tous les véhicules doivent passer par le centre de contrôle technique agréé avec équipement.
Merci.
Et ici, vous me permettrez de pouvoir citer un grand centre dans notre pays qui a un équipement pimpant neuf ou encore qui travaille pour notre pays, qui se trouve sur poids lourd, c'est la CCT. Donc,
Valmanga,
oui.
Permettez que je vous arrête parce que l'émission va prendre fin dans moins de 3 minutes et il faut déjà conclure. Il y a certains auditeurs qui ont leurs propositions. Chabani Jokash, Francine, je pense que pour apporter une solution adéquate à ce problème, l'État peut octroyer les bus à crédit aux entreprises privées congolaises pour permettre une gestion rationnelle axée sur les résultats. Au Meonga de Kinshasa, pour assainir ce secteur à Kinshasa, il serait souhaitable que le gouvernement exonère des taxes à l'importation des véhicules de transport, ce qui permettra l'accroissement des nombres des véhicules de transport modernes et la disparition des engins de la mort. On retiendra également que vous avez parlé de l'actualisation de la législation en cours et du code de la route. En guise de conclusion, Valmanga, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent peuvent retenir?
D'abord, très rapidement, notre pays, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique. L'exemple que donne notre pays, c'est ce qui est suivi à travers pratiquement tous les pays africains, pourquoi pas des pays du monde. Nous devons avoir un charroi automobile de l'État destiné à transporter tous ceux qui n'ont pas de voiture, tous ceux qui n'ont pas d'autres véhicules ou engins de transport en commun. C'est partout à travers le monde. On doit organiser cela et confier ces entités communes à des personnes fiables et qui connaissent très bien le secteur de transport.
Merci Valmanga. Henri Lissoumbou, combien est-ce qu'il faut payer pour le contrôle technique?
Pour le contrôle technique, c'est $30 qu'on demande aux chauffeurs de la ville de Kinshasa.
Quel que soit le véhicule?
Ouais, ça dépend d'un véhicule à un autre, parce que là, nous sommes dans le transport rémunéré des personnes. Nous n'avons que des véhicules pouvant transporter au moins 30 à 40 personnes. Là, c'est $30 et puis $60 comme on demande.
Alors, en guise de conclusion, Henri Lissoumbou, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour assainir le secteur des transports en commun en RDC? Pour terminer.
Ici, il faudrait que le ministre, comme l'a dit M. Vallée, convoque les états généraux de la ville de Kinshasa en ce qui concerne les états généraux en ce qui concerne le transport, dans le secteur de transport. Parce que là, il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, alors que ce secteur-là est très complexe. Donc, même le tarif, le prix que nous sommes en train de payer, c'est un tarif du social. Aujourd'hui, on ne peut pas renouveler son charroi automobile tant que le prix ne sera pas réel. Vous savez aussi
Merci.
Que les chauffeurs ont pris en charge l'indemnité de transport des agents de l'État.
Merci Henri Lissoumbou. Franklin Tchamala, juste un mot pour terminer.
Non, je plaide encore une fois pour la mise en œuvre d'une politique de transport, des personnes et des biens, une politique efficiente qui s'insère probablement et, dans le projet de transport multimodal qui est en ce moment et à l'étude, presque fin étude, et qui sera bientôt financé par la Banque mondiale.
Merci Franklin Tchamala, merci à vous chers auditeurs internautes de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Notez que l'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.